Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets. Embarquement immédiat pour quelques vadrouilles à travers la planète. On va écouter comment on vit ailleurs. Avec un chapitre scolaire, à l'heure où nos enfants ont quitté leurs professeurs pour au moins 4 semaines, on va visiter des écoles sans salle de classe. L'école des bois en Espagne, avec des petits avides d'apprentissage en pleine forêt. Et puis l'école sous les ponts aussi, ça se passe en Inde, où la majorité des enfants sont déscolarisés. Des classes s'improvisent sur le bitume. L'UNICEF estime que pour 168 millions d'élèves dans le monde, les écoles sont entièrement fermées depuis un an. On écrira aussi une page vaccinale dans ces carnets, avec un gros plan sur la saga AstraZeneca qui a défrayé la chronique. Le labo anglo-suédois a-t-il privilégié le Royaume-Uni au détriment de l'Europe? Bruxelles va-t-il bloquer les exportations de vaccins outre-Manche? Et surtout, quelle est la part de la com dans cette crispation? On décortique tout ça avec Isabelle Horry. Et puis on ouvrira une page africaine, retour au Sénégal, un mois tout juste après les émeutes inhabituelles qui avaient agité Dakar. Les jeunes sont en colère, lassés et inquiets. On va les écouter et essayer de comprendre pourquoi. Les carnets du monde sont ouverts. Première destination, la forêt, pas très loin de Barcelone.
Europe 1, les carnets du monde.
Les écoliers français ne retourneront donc pas en classe avant 4 semaines au moins. Un mois partagé entre vacances et enseignement à distance, décision prise à cause de la circulation très forte du virus. Alors dans ces carnets, on a décidé d'observer comment certains enseignants se sont adaptés pour faire classe malgré tout. L'Espagne d'abord, où les enfants sont en vacances cette semaine. Là-bas, malgré l'épidémie, depuis le début de l'année, les écoles n'ont jamais fermé. Et certaines ont été complètement épargnées par le Covid, car les apprentissages se font dans la nature. On les appelle les écoles des bois, car la forêt est convertie en salle de classe. C'est un concept né en Allemagne et globalement dans les pays d'Europe du Nord et qui se développe en Espagne pour les petits élèves jusqu'à 6 ans, car la scolarisation n'est pas obligatoire avant cet âge et donc les écoles n'ont pas besoin de reconnaissance officielle. L'école des bois, c'est une petite révolution culturelle pour l'Espagne, où les enfants sont souvent surprotégés. Et puis c'est aussi une réponse au Covid, car en plein air, le virus se transmet beaucoup moins. Notre correspondant en Espagne, Henri de la Guérie, a passé une journée à l'école des bois de Rubio, à 1 heure de Barcelone. Voici son reportage, tourné il y a quelques semaines, alors que les températures étaient encore très fraîches.
Sur un petit chemin qui traverse des champs et des potagers, une ribambelle d'enfants marche d'un bon pas en direction de la forêt. Brigitte Escolar et 4 éducatrices conduisent le groupe. Nous sommes à Rubio, dans l'arrière-pays catalan. Le brouillard ne s'est pas encore levé, mais ici, comme tous les jours, la classe se fait dans la nature.
On sort normalement tous les matins à 9h30 jusqu'à, c'est ça, midi et demi, 1h. Oui, et on reste dans la forêt. Ça nous est égal s'il fait froid, s'il fait chaud.
Là, il fait 3 degrés.
Ouais, mais bon, il faut aller bien habillé. Mais c'est dans le nord de l'Europe, avec les températures qu'ils ont. Et tout, ils sortent à l'extérieur beaucoup plus que nous, ici. Avec le temps qu'on a, on a beaucoup de soleil presque tous les jours de l'année. Comme on ne peut pas profiter de tout ça?
Avec leurs polaires, leurs anoraks, leurs chaussures de marche et pour certains leurs cagoules, les 33 enfants que compte la petite école n'ont pas l'air d'avoir froid. Rapidement, ils se divisent en deux groupes, les plus jeunes d'un côté et les 3-7 ans de l'autre. Autonomes et débrouillards, ils connaissent la forêt comme leur poche. Et quand on voit le sourire malicieux d'Ada, 6 ans, on devine qu'ici les enfants sont épanouis.
Ici, on aime tous la forêt. Et cette école est faite pour les bois, pas pour la ville. Tous les jours, on est dans la forêt et on apprend des choses sur les animaux. En fait, c'est comme si on vivait complètement dans la nature.
Ce matin, après 45 minutes de marche, les plus âgés s'arrêtent pour observer des nids d'oiseaux assis par terre. Garaou, Mel, Yusia et les autres dessinent sur leur cahier les animaux. Certains commencent à écrire. Les éducatrices ont apporté des livres en lien avec ces oiseaux et des guides consacrés aux arbres. Un peu plus loin, des garçons s'amusent à mesurer le tronc d'un sapin.
Le travail principal, c'est jouer. Et l'apprentissage des enfants, on ne dit pas des élèves, on dit des enfants, c'est à partir de ces jeux. Alors, il apprend à partir de tout ce qu'ils ont à son côté, dans son environ. et tous les matériaux de la nature. Alors on dit que notre outil pour apprendre c'est la nature. Et après oui, ils sont prêts pour lire, pour compter, pour les maths, parce qu'en plus dans la nature il y a tout. Si tu veux compter, tu peux compter avec tout ce qu'il y a, tu peux vous multiplier avec les feuilles. Alors c'est seulement de les mettre un peu d'imagination et savoir voir les choses.
En voyant ces enfants s'amuser et observer la nature, on pense à un camp scout ou à une colonie de vacances. Mais il s'agit bien d'une école, simplement, explique Patricia, éducatrice. L'apprentissage découle de la curiosité des enfants.
Toutes les matières sont ici. Les mathématiques, la nature, la biologie, tout ce dont tu as besoin est dans la forêt. Et puis découvrir et apprendre, c'est inné chez les enfants. Ils nous le demandent tous les jours. Nous, on doit simplement être là pour les guider et les aider tout en s'adaptant au rythme de chacun. C'est ça qui fonctionne.
Après le travail sur les oiseaux, certains enfants cherchent des ossements d'animaux. Et il y a quelques jours, ils ont trouvé le crâne d'un sanglier. Vers 13h, ils retournent dans un bâtiment en dur. Chacun apporte son déjeuner car beaucoup sont végétariens ou ont des régimes spéciaux. L'après-midi, les plus petits font la sieste pendant que les autres réalisent des activités en intérieur. Vers 16h ou 17h, les parents arrivent. Francesc a inscrit ses deux enfants à l'école des bois car il cherchait un modèle scolaire différent.
Mon expérience à l'école n'a pas été très agréable. J'étais dans une école classique où on évaluait les enfants tout le temps. L'apprentissage ne se faisait qu'à travers la mémorisation. Et donc j'ai toujours voulu une école alternative, un endroit qui donne la priorité aux besoins de l'enfant. Et puis je crois qu'on apprend quand on s'amuse, pas quand on nous oblige ou quand cela se fait sous la pression des examens.
Autre atout pour les parents cette année, enseigner dans la nature permet d'éviter les contraintes liées au Covid. Dans la forêt, on oublie le virus, les enfants ne portent pas de masque, on ne prend pas leur température chaque matin et ils peuvent se mélanger comme bon leur semble.
Je crois que c'est une opportunité. On se contamine surtout dans les endroits fermés. Ici, on est ventilé toute la journée. Pour maintenir l'espace entre un enfant et l'autre, entre nous, c'est beaucoup plus facile. Si on éternue, tout s'en va avec l'air. On ne restait pas enfermé avec tous les virus là, qu'on les passe des uns aux autres. Alors, c'est beaucoup plus facile d'être dehors. Avec des Covid ou sans Covid, je crois que les enfants, ils devront sortir beaucoup plus. Le Covid, je crois que c'est une opportunité pour les faire, pour porter les enfants dehors. Alors, c'est seulement avoir envie de les faire.
Et l'école des bois de Rubio est victime de son succès. Une quinzaine d'enfants sont sur liste d'attente. Rubio, Henri de la Guérie, Europe 1.
Voilà, après ce magnifique bol d'air, on rejoint à Barcelone Henri de la Guérie. Bonjour Henri.
Bonjour Sophie.
Cette école en Catalogne, est-ce que c'est une exception ou un modèle qui se développe?
Alors écoutez, aujourd'hui on compte une quarantaine de structures de ce genre dans toute l'Espagne. Il y a les écoles des bois, mais aussi les écoles de la plage, ça fait rêver. Hein. Alors ça représente à peu près 1000 enfants, c'est peu, mais les listes d'attente s'allongent et la plupart de ces écoles ont été créées ces 5 dernières années. C'est une vraie demande des parents, on l'a entendu, mais les autorités ont encore beaucoup de mal à comprendre ces écoles. Une seule d'entre elles d'ailleurs est homologuée. Écoutez Brigitte Escolar, la directrice de l'école des bois, les relations avec l'administration sont compliquées.
C'est difficile parce que la première chose qu'ils nous demandent, c'est « Et combien de mètres carrés vous avez ?» Et pour les bureaux, pour faire des réunions, les profs, ils ne comprennent rien. D'accord ? Parce que vraiment, ils s'imaginent toujours un endroit fermé. Et alors, ils ne s'imaginent pas un endroit qu'on peut faire notre travail dans un environnement ouvert. Dans une forêt.
Voilà, l'absence d'homologation, c'est ce qui empêche de proposer des écoles des bois pour les plus de 6-7 ans lorsque la scolarité devient obligatoire.
Au-delà de ces écoles des bois, Henri, les écoles classiques n'ont pas fermé en Espagne depuis septembre. Comment s'organisent-elles ?
Alors, dès le début de l'année, les classes ont été dédoublées et puis surtout, les écoles ont envahi l'espace public, des jardins, des squares, des installations sportives ont été mises à disposition pour accueillir de temps en temps les élèves. Certaines rues ont été pacifiées, c'est-à-dire piétonnisées pour permettre aux enfants d'avoir une cour de récréation plus grande. Une fois que l'épidémie sera passée, d'ailleurs, certains de ces aménagements resteront. Toutes les écoles, bien sûr, ne peuvent pas aller dans la forêt, mais les mentalités évoluent et en Espagne, on se rend bien compte qu'il faut davantage profiter des espaces extérieurs et surtout de ce climat méditerranéen.
Eh oui, la côte méditerranéenne de l'Espagne bénéficie, je crois, de plus de 300 jours de soleil par an. La chance.
Ouais,
merci.
La chance.
Merci Henri, à très vite dans les carnets.
À bientôt Sophie.
Et dans un instant, on va découvrir d'autres écoles en plein air, des écoles informelles, sous des ponts à New Delhi, en Inde. À tout de suite.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Suite de notre petit dossier sur l'école. Comment faire en ces temps de pandémie? Comment les enfants sont-ils impactés? Après l'école des bois en Espagne, c'est en Inde qu'on file maintenant. 1,3 milliard habitants et une population très jeune, 50% des Indiens en moins de 24 ans, 20% moins de 14 ans. Là-bas, les écoles publiques, notamment primaires, ont fermé depuis mars 2020. Alors les enfants de classe moyenne peuvent étudier en ligne ou être aidés par leurs parents, mais pour les autres, c'est-à-dire pour la majorité des enfants, voilà un an que les cours se sont arrêtés net. Dans la capitale, New Delhi, des bénévoles tentent comme ils peuvent d'éviter un désastre. Voici le reportage de Combasta.
Nous sommes sur les plaines inondables de la rivière Yamuna qui traverse New Delhi. Sous le pont du métro aérien qui surplombe cette zone pauvre et rurale, de nombreux enfants sont assis devant des tables avec leurs cahiers. En plein air, deux cours de niveau primaire ont lieu en même temps. À la récré, des enfants nous parlent de leur situation.
Je m'appelle Shivani, j'ai 6 ans. Mes parents sont agriculteurs. Ma mère fait pousser des légumes et mon père va les vendre en ville. Je suis des cours ici depuis décembre et je suis très contente. Ma matière préférée, c'est l'anglais.
Moi, j'ai 7 ans et je m'appelle Gautam. Ça fait 3 ans que j'étudie dans cette école et ce que je préfère, ce sont les mathématiques. Plus tard, je veux intégrer la police, comme ça je pourrais devenir un soldat et puis ensuite le premier ministre de l'Inde. J'habite dans la cabane que vous pouvez voir juste là. Mon papa est mort et ma maman travaille dans les champs.
Comme Shivani et comme Gautam, ils sont nombreux à ne pouvoir compter que sur cette école informelle sous le pont. À côté des tables, une petite cabane sert de salle des profs. Ils sont tous bénévoles, comme Kuldeep Moria, qui a seulement 17 ans et qui vient enseigner aux petits un jour par semaine.
Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés par des champs. Ici, tous les parents vivent de l'agriculture. L'école la plus proche est à plus de 2 km à pied et de toute façon, elle est fermée depuis presque un an à cause du Covid. Cette école gratuite a été lancée il y a 5 ans pour les gamins du coin qui ne reçoivent pas d'éducation. Au départ, ils étaient à peine une dizaine, mais aujourd'hui, nous en accueillons presque 300 tous les jours.
Comment s'est passé le confinement? Quel impact ça a eu sur l'école?
Durant le pic de l'épidémie, nous avons fermé 2 mois, mais très vite, nous avons décidé de reprendre les cours. Bien sûr, on a pris des précautions sanitaires avec masques, distanciation sociale et gel hydroalcoolique, mais on ne pouvait pas laisser ses enfants sans cours pendant un an.
En principe, depuis le confinement, des leçons en ligne sont prévues, mais selon la Banque mondiale, seul un tiers des foyers indiens sont connectés à Internet. Pire, ces statistiques reposent sur le taux d'équipement de la population en smartphone. Or, ceux-ci peuvent difficilement servir de support éducatif. C'est ce qu'ont réalisé Vina Gupta, 62 ans, et son mari, tous deux retraités aisés. Un peu plus loin dans le quartier, ils donnent un cours de mathématiques à une vingtaine d'enfants, à même le trottoir.
Regardez ici, il y a des centaines de huttes de fortune. Ce sont des gens très très pauvres qui vivent là. Durant la pandémie, j'ai pris conscience que pendant que les parents travaillaient, les enfants n'avaient nulle part où aller. Les écoles sont fermées et ils n'ont aucun moyen d'accéder à des cours en ligne. Avec mon mari, nous avons décidé de venir en aide à ces enfants défavorisés. Nous avons donc commencé à les rassembler ici. Nous n'étions pas autorisés à utiliser une salle à cause du virus.
Depuis le mois de mai dernier, le couple donne donc des cours un jour sur deux. Motivée, la soixantenaire raconte pourtant que cela n'a pas toujours été facile.
Je leur enseigne l'anglais, je leur enseigne l'hindi. Parfois aussi, nous faisons des activités récréatives comme des dessins. Mais leur capacité de concentration est assez limitée. Et puis cet été, il a fait tellement chaud. Des vents brûlants soufflaient pendant les cours. Pendant la saison des pluies, c'était très difficile d'enseigner sans même un toit. Le gouvernement devrait nous fournir un abri. Moi et mon mari, nous ne pouvons pas prendre en charge tous les petits du coin. Il nous faut de l'aide. Il faut que des volontaires nous rejoignent et donnent de leur temps.
Vina Gupta ne se fait pas d'illusions. Quelques initiatives solidaires ne suffisent pas à faire face à l'impact de la pandémie sur l'éducation. Selon une étude, le nombre d'enfants de 6 à 10 ans inscrits dans aucune école est passé de 2 à 5% depuis le début de la crise sanitaire, des chiffres qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car être inscrit ne veut pas dire avoir accès à des cours. À New Delhi, Combastin, Europe 1.
Voilà, adorable petite voix d'écoliers indiens installés sur un trottoir donc. Et là-bas en Inde, alors que certaines écoles commençaient timidement à rouvrir, on apprend que plusieurs États indiens les ont fermés à nouveau devant la seconde vague qui prend de l'ampleur dans le pays. Et pour poursuivre cette exploration sur l'état de la scolarisation en ces temps de pandémie, on est avec Nicolas Rush depuis New York. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez à l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, où vous êtes conseiller principal en éducation. Et il y a un mois, au siège de l'ONU où vous êtes, vous avez présenté une installation éloquente, la salle de classe de la pandémie, 168 pupitres d'écoliers alignés devant un tableau noir, avec 168 petits sacs à dos sur les dossiers de chaises. Que représentait ce chiffre 168 ?
Eh bien, ce 168, c'était une représentation des 168 millions d'enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école et qui ont eu leur scolarité interrompue depuis le début de la pandémie.
Alors, il existe des outils pour aider les enfants à étudier malgré tout à distance. Vous aidez d'ailleurs les États à mettre en place ces outils, indépendamment de la pandémie. Hein, vous le faisiez déjà avant, par exemple, quand les écoles sont trop loin ou qu'il y a une situation de conflit. Mais bon, c'est la télévision, c'est la radio, c'est le numérique, évidemment, quand c'est possible. Mais votre message aujourd'hui, c'est de dire que c'est beaucoup plus urgent de rouvrir les écoles.
Ben c'est, alors, quand l'école est fermée, effectivement, on n'a plus d'accès à l'éducation, mais pour un certain nombre d'enfants, y compris les plus vulnérables, on n'a plus accès à un certain nombre de services cruciaux comme la nutrition, les cantines scolaires et ainsi de suite.
Oui, et la santé, c'est-à-dire que l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage pour énormément d'enfants dans le monde. C'est là où ils mangent une fois par jour, à coup sûr, etc.
Exactement, et notamment dans des situations de crise, d'urgence, on considère que réouvrir les écoles, c'est aussi redonner un sens de normalité aux enfants et donner un accès aux autres services par la plateforme éducative.
L'éloignement de l'école, c'est le risque pour certains de ne jamais retrouver le chemin de l'enseignement ?
C'est effectivement le risque de ne jamais retrouver le chemin de l'enseignement. Nous avons dans un certain nombre de pays un grand nombre de difficultés à voir les enfants les plus vulnérables scolarisés. Je rappelle qu'avant cette pandémie, il y a quand même 260 millions d'enfants qui sont totalement non scolarisés ou déscolarisés dans le monde. Et je crois, si je peux citer un chiffre qui me paraît vraiment inquiétant, c'est le Fonds Malala qui a estimé que après la pandémie, on avait 20 millions de filles qui étaient vraiment à risque de ne jamais retourner à l'école à cause des conséquences de la crise liée à la Covid-19. C'est beaucoup de risques liés à la vulnérabilité de certaines catégories de population et au fait que quand les filles n'ont pas accès à l'école ou quand les élèves vulnérables n'ont pas accès à l'école, on se retrouve avec un risque accru d'être confronté à des pratiques néfastes telles que les grossesses non désirées, les violences de genre et les mariages précoces et ainsi de suite.
Les économies de tous les pays sont extrêmement ébranlées par la pandémie. Est-ce que vous craignez que les budgets alloués à l'éducation en fassent les frais à moyen terme, si on regarde un tout petit peu plus loin ?
Ah ben on le craint et ça a été estimé. D'abord, il faut savoir que dans les pays qui sont en situation de crise, d'urgence, généralement, la part des dépenses publiques accordées à l'éducation est généralement plus faible que dans les pays qui ne le sont pas, en termes de pourcentage, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une estimation qui a été faite et la contraction des économies pourrait aboutir à une perte d'environ 200 milliards par an des budgets d'éducation au niveau global. Compter que cette crise a un triple impact, en fait, pour l'appui au système éducatif de par le monde. D'abord, une contraction des budgets nationaux qui fait qu'il y aura peut-être moins d'enveloppes budgétaires consacrées au système éducatif nationaux, mais également une contraction des revenus des ménages, et on sait que les ménages contribuent énormément aux dépenses d'éducation des enfants. Ouais. En particulier dans les pays les plus vulnérables, on va dire, dans la balance. Et la troisième chose, c'est une contraction de l'aide au développement, puisque tous les pays sont touchés de par le monde, ce qui veut dire que leur budget éducation vont être grévés, mais leur budget d'aide au développement risque de l'être également.
Voilà quelques données qui rappellent que l'école est bien souvent le lieu de protection des enfants et qu'il y a de véritables enjeux énormes pour les mois et les années à venir. Il faut rouvrir les écoles, dites-vous, aux États. Merci beaucoup, Nicolas Rush. Je rappelle que vous êtes spécialiste éducation à l'UNICEF et que vous nous parliez depuis New York. Merci, au revoir.
Merci à vous.
À suivre, Eva Rock, qui a eu un coup de cœur pour une série britannique. Elle nous rejoint dans un instant.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Comment les télés racontent-elles aussi à leur manière le monde qui change? On se pose la question régulièrement dans les carnets avec la meilleure dans ce domaine, Eva Rock herself. Bonjour Eva.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous avez eu un immense coup de cœur pour une série britannique dont le récit se déroule en 1981.
Oui Sophie, et la date, elle est extrêmement importante. Nous voici donc à Londres. Holly, Omari, Colin, Nathaniel et Jill vivent en colocation. Ils sont jeunes, ils aiment faire la fête, les garçons aiment les garçons. Jill, c'est la seule fille, elle, elle aime prendre soin d'eux. Et c'est dans cette euphorie et dans cette vie nocturne qui est pleine d'énergie que les premiers cas de sida vont apparaître.
Et le sida, c'est le sujet principal de la fiction?
Oui, exactement. Comment la communauté homosexuelle a vécu ces années 80 marquées par la pandémie? On retrouve par exemple Colin qui rend visite à un de ses amis à l'hôpital, détache par sème son corps amaigri. Il est isolé dans une chambre, loin de tout. Les repas sont même posés au sol devant la porte. Personne ne veut lui amener. Son compagnon vient de mourir. Et lui, écoutez bien, il pense à un infime détail.
Chez nous, on a eu de la moisissure. Dans la cuisine, c'était une bande étroite de moisissure. On a traité le mur, on a refait tous les plâtres. J'ai tout repeint avec de la peinture au zinc. Mais la moisissure revenait encore. J'ai fait une sorte de guerre. Ces petites taches brunâtres. Aujourd'hui, je m'interroge. Est-ce que c'est moisissures nous ont donné ce cancer? On les a tous les deux respirés pendant des années.
Et oui, à l'époque, on parlait de cancer et cette tache de moisissure rappelle évidemment ces taches sur son corps. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette série signée Russell T. Davis, qui s'était déjà intéressé à la communauté homosexuelle de Manchester et aux années sida. C'était sa série Queer as Folk.
Elle vous a vraiment touchée, cette série. Hein,
moi,
Eva.
J'ai été bouleversée, Sophie, bouleversée par It's a Sin, de la même façon que quand j'étais ado, les livres d'Armistead Maupin, les chroniques de San Francisco ou encore le film Philadelphia avec Tom Hanks m'avaient amené à poser un autre regard sur ce sujet. Eh bien, It's Ceci m'a replongé dans ces années 80 si dramatiques. Mais, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que là où Philadelphia avait eu pour effet des litres de larmes, It's a Sin possède une énergie extraordinaire. C'est la soif de vivre qui l'emporte. On est pris dans ce tourbillon, dans cette insouciance en fait, qui permet à ces jeunes gens de continuer à espérer. Et la série est d'autant plus intéressante qu'elle nous rappelle ce qu'on disait aussi de la maladie.
Vous voyez, c'est saoulant. Dès qu'on sort, on a droit à ces conneries. Alors que c'est un ramassis de mensonges.
J'ai discuté avec Pete, il connaît le frère d'un type qui travaille à
oh,
justement,
oui, la sœur du cousin du frère qui sait, tout le monde connaît quelqu'un qui sait, mais c'est quoi le truc, hein? C'est quoi le sida en réalité? C'est du racket, c'est fait pour engraisser les compagnies pharmaceutiques. Vous croyez sérieusement à une maladie qui ne tue que les gays? Genre, elle détecte que tu es gay, et elle te tue, toi et personne d'autre. Mais ça se passe comment, hein, pour les bis? Ils sont malades un jour sur deux? Ils disent que c'est un cancer, sauf que ça n'a aucun sens. Un cancer, c'est pas un truc qu'on attrape, c'est ridicule. C'est pas comme une grippe ou un rhume, tout le monde le sait. Ça peut pas se transmettre. Et attendez, en plus c'est un cancer gay. C'est quoi un cancer gay? Je veux dire, à quoi il ressemble? Est-ce qu'il est rose? Et où il se trouve, hein? Dans le poignet? C'est bon, là, faut arrêter. Il y a toutes ces histoires, toutes ces rumeurs, qui sont toutes cauchemardesques, parce que c'est leur projet et c'est le sien aussi. Ils veulent nous foutre la trouille et nous empêcher de baiser et nous faire mourir d'ennui pour une seule et unique raison. Personne ne veut coucher avec eux, c'est ça le truc.
Ouais, ces mots feraient presque écho à l'épidémie de Covid qu'on vit en ce moment.
Oui, c'est frappant à plusieurs reprises dans la série. Ouais. On y pense forcément. Le mot épidémie revient un peu comme une litanie. It's a Sin est très réussi parce que la série, elle ne se contente pas d'évoquer cette épidémie, justement. C'est aussi une série politique au sens où elle nous raconte la société. Ouais. Elle revient sur les difficultés à être homosexuel dans les années 80, l'homophobie dite ordinaire, l'exclusion, les relations conflictuelles avec les parents. Et puis la solitude, moi, qui m'a vraiment marqué, la solitude qui tue aussi les personnes atteintes du VIH. 5 épisodes remarquables, à la fois dans la construction, dans la réalisation avec des très beaux plans séquences, dans l'interprétation et l'écriture, vous attendent donc sur mycanal.fr. Et puis Sophie, dernière chose, en Grande-Bretagne, la diffusion de la série a eu pour conséquence une forte augmentation du nombre de dépistages. Ah, comme quoi les séries ont du sens, elles ne sont pas inutiles.
Exactement, et j'ajoute d'ailleurs qu'il est toujours temps de faire un don sur sidaction.org. Est-ce que vous avez abordé cette série dans votre podcast Sériland?
Oui, avec l'éclairage de Fred Colby, qui est journaliste et militant depuis des années au sein de l'association AIDS et qui nous explique aussi, qui nous décrypte aussi la maladie aujourd'hui.
Merci beaucoup Eva et à très vite dans les carnets et en attendant dans Culture Média chaque matin de la semaine sur Europe 1.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
C'est en pleine troisième vague d'épidémie et alors que les campagnes de vaccination sont à la peine partout en Europe, qu'un feuilleton a animé les instances européennes ces dernières semaines, c'est la saga AstraZeneca sur laquelle on a décidé de revenir dans les carnets.
pour essayer de démêler un peu le vrai de ce qui relève plus de la communication. Pour tous, l'approvisionnement en vaccins est laborieux, on le sait, mais on parle surtout d'AstraZeneca, car le laboratoire anglo-suédois n'a pas tenu ses promesses de livraison en Europe. Or, dans le même temps, le géant pharmaceutique est soupçonné d'avoir privilégié le Royaume-Uni au détriment de l'Union européenne. Alors, bouc émissaire ou vrai méchant, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Sophie.
Vous suivez pour nous cette saga AstraZeneca au niveau européen. Ça partait pourtant bien ce vaccin, hein, c'était le moins cher sur le marché.
Oui, hein, il faut s'en souvenir, hein, ce vaccin était le favori de beaucoup de gouvernements européens. C'est avec AstraZeneca que l'Union européenne a conclu son premier contrat, fin août. Les 27 ont commandé 300 millions de doses, avec une option pour 100 millions en plus. Ce vaccin semblait alors moins risqué que le BioNTech ou le Moderna, qui sont basés sur la technologie nouvelle de l'ARN messager. Il coûtait autour de 2 euros et sa conservation était plus simple.
C'est l'université d'Oxford qui a mis au point ce vaccin.
AstraZeneca a conclu un accord avec les chercheurs. Le labo a accepté de le vendre au monde entier à prix coûtant, sans faire de bénéfice. Sur le papier, c'était l'occasion en or de mettre le pied dans un secteur de la pharma dont le géant anglo-suédois n'était pas spécialiste, tout en se construisant une belle image.
Mais ça n'a pas marché comme prévu.
C'est moins qu'on puisse dire. Pour comprendre l'ampleur du problème, il suffit de quelques chiffres. Initialement, AstraZeneca s'était engagé à livrer 120 millions de vaccins aux Européens au premier trimestre. Finalement, il en a livré 30, soit 4 fois moins quand même. Et au deuxième trimestre, ça s'annonce guère mieux. On parle de 70 millions sur les 180 millions espérés.
En même temps, c'est un produit innovant qui est mis au point en un temps record. On peut peut-être comprendre que le labo rencontre des difficultés.
Oui, c'est vrai. Et Pfizer et Moderna ont aussi eu des soucis de rendement dans leurs usines. C'est aussi l'explication qui est avancée par AstraZeneca. Mais la différence, c'est que les Européens ont rapidement eu l'impression que l'entreprise leur cachait des choses. Pourquoi ? Parce que au moment où leur livraison à eux se réduisait comme peau de chagrin, les Britanniques vaccinaient à tour de bras. Et donc, ils ont le sentiment de s'être un peu fait rouler. Écoutez, par exemple, le Belge Philippe Lambert, c'est le patron du groupe écologiste au Parlement européen, il résume très bien ce qu'on entend côté européen.
Mais ce qui se passe, je pense, c'est que cette compagnie a passé des contrats avec un nombre de clients supérieur à ce qu'ils sont capables de fournir. Et pour des raisons qui sont probablement liées à la nature des contrats qu'ils ont signés, ben, ils ont donné la préférence aux clients britanniques avant de livrer le client européen. Contrairement à ce qu'ils racontent, je pense que le but d'AstraZeneca, c'est de se faire un maximum de fric. Et donc voilà, c'est aussi une entreprise qui, nous dit-on, est gérée de manière très autocratique par son PDG français, qui d'ailleurs n'est même pas en Europe. Apparemment, il passe son temps en Australie. Donc tout ça ne semble pas très sérieux, en fait.
Alors ce patron d'AstraZeneca, Pascal Soriot, pourquoi est-il en Australie alors que son entreprise est dans la tourmente, Isabelle?
Alors, il est français, mais il vit en Australie avec sa famille depuis des décennies et officiellement, il est coincé par les restrictions liées au Covid qui l'empêchent de voyager.
Est-ce qu'il s'est déjà exprimé sur cette accusation d'avoir donné la préférence aux Britanniques ?
Oui, lors d'une audition organisée par le Parlement européen il y a quelques semaines, la question lui a été posée et il ne l'élude pas. Les Européens martèlent qu'ils ont conclu leur contrat un jour avant les Britanniques, en vidéo depuis Sydney. Donc, Pascal Soriot a répondu qu'il ne prenait pas la bonne date en compte.
Le contrat qui compte, c'est celui que nous avons signé en mai avec l'Université d'Oxford. L'université nous a alors transféré un nombre d'accords déjà conclus entre le gouvernement britannique et des fournisseurs. Comme vous pouvez l'imaginer, le gouvernement britannique a dépensé des dizaines de millions de livres pour soutenir le développement du vaccin. Il a aussi dépensé des dizaines de millions dans les usines. Par conséquent, il avait obtenu des engagements que nous avons dû reprendre. L'accord du mois d'août règle les derniers détails. Mais les engagements, eux, datent de l'accord conclu avec Oxford.
Bon, ben là, c'est assez clair, hein, Isabelle. On comprend entre les lignes que les Britanniques ont exigé une forme de « nous d'abord », d'où ces tensions entre Londres et Bruxelles.
Mais oui, parce que les Britanniques ont déjà injecté 36 millions de doses de vaccins. En France, hein, à titre de comparaison, on en est à 12 millions à peu près. Les 27 comptaient notamment sur des doses venant du Royaume-Uni où plusieurs usines fabriquent de l'AstraZeneca. Or, pas un flacon n'a été exporté vers le continent, alors que les usines qui produisent des vaccins en Europe exportent à tour de bras vers le Royaume-Uni. Comme toutes les exportations doivent être déclarées, on sait que 1 million de doses d'AstraZeneca fabriquées en Europe est partie au Royaume-Uni, un comble, mais surtout que c'est aussi le cas de plus de 20 millions de doses de vaccins Pfizer produits en Belgique.
Alors justement Isabelle, ça c'est une chose que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi l'Europe exporte des vaccins alors qu'elle en manque tellement ?
Ce sont les labos qui exportent depuis les usines qui fabriquent en Europe, mais ces vaccins ne sont pas la propriété des États. Les labos répondent aux exigences de contrats qui ont été passées en toute légalité avec d'autres clients.
En l'occurrence, Pfizer ou Moderna respectent leurs engagements avec l'Europe et livrent les quantités de vaccins prévues, mais pas AstraZeneca.
Voilà, et donc AstraZeneca ne pourra pas exporter tant que ça sera le cas. La présidente de la Commission européenne l'a dit ouvertement. En théorie, le mécanisme de contrôle des exportations qui a été adopté par les Européens permet même de bloquer les livraisons de Pfizer parce qu'il prévoit que les exportations peuvent être bloquées vers un pays qui ne pratique pas la réciprocité. Mais voilà, l'utilisation de ce mécanisme ne fait pas l'unanimité. Les matières premières des vaccins viennent du monde entier, donc le risque, si tout le monde ferme ses frontières, c'est que la production devienne impossible. Ouais. D'ailleurs, par exemple, un composant essentiel du vaccin Pfizer vient du Royaume-Uni.
Ouais, et n'est produit que là-bas, en Europe. Alors, on va écouter justement ce que les Britanniques pensent de cette situation de crispation. Anaïs Cordoba leur a tendu son micro dans les rues de Londres.
C'est pas terrible de faire ça. Tout le monde veut protéger sa population. Mais si vous allez dans un magasin et que vous achetez quelque chose, vous vous attendez à recevoir votre produit avant celui qui l'a acheté après vous. Donc désolé, mais c'est premier arrivé, premier servi. Et le Royaume-Uni a acheté le vaccin avant. En Europe, c'est un fiasco. Et c'est pas seulement qu'ils n'ont pas assez de vaccins, c'est aussi qu'ils ont tellement attaqué le vaccin AstraZeneca que les gens n'en veulent plus.
C'est un jeu politique ridicule. C'est complètement exagéré. La Commission européenne n'a pas bien géré les contrats de vaccins et maintenant elle veut se couvrir. Hier, j'ai lu un article qui disait qu'AstraZeneca n'a pas du tout favorisé le Royaume-Uni.
Je comprends tout à fait leur réaction. L'Union européenne est responsable de 500 millions de personnes et elle veut pouvoir les vacciner. Moi, j'espère vraiment que tout le monde va s'en sortir ici, en Europe et partout ailleurs, pour que la vie normale reprenne son cours, pour tous.
Voilà pour les Anglais dans la rue. Et on entend peu Boris Johnson malgré le blocage actuel bizarre de la part du Premier ministre britannique, plutôt coutumier de sorties tonitruantes. Élément d'explication avec un journaliste du Financial Times.
Dans les semaines à venir, il va y avoir une très grosse demande de seconde dose de vaccin ici. J'ai parlé au ministre de la Santé, Matt Hancock, la semaine dernière, et il assure qu'il y aura assez de vaccins pour injecter une seconde dose aux gens qui ont reçu la première. Mais il a admis que ces vaccins ne sont pas encore tous produits. Ils sont préoccupés à l'idée que l'Europe puisse tomber dans le nationalisme vaccinal et bloque des exportations de vaccins. Car alors, ça enverrait un très mauvais signal au reste du monde, y compris à l'Inde, auprès de qui le Royaume-Uni a commandé 10 millions de doses d'AstraZeneca. 5 millions de doses sont arrivées, mais les autres 5 millions sont bloqués car le gouvernement indien veut donner la priorité à sa population. Donc on manque déjà de vaccins en avril. Alors si l'Union européenne bloquait les exportations, ce serait un vrai problème. Ce qui est intéressant dans cette dispute avec l'Union européenne, c'est que Boris Johnson négocie en vrai homme d'État. Ça surprend beaucoup de gens ici, mais aussi, je crois, dans les capitales européennes. Boris Johnson a eu des coups de fil avec Emmanuel Macron, Angela Merkel et Ursula von der Leyen. Et ceux qui ont assisté disent qu'il fait tout pour apaiser les tensions et proposer des solutions constructives pour résoudre ces disputes.
Voilà, George Parker, journaliste au Financial Times. Isabelle Horry, entre Bruxelles et Londres, ça discute, ça négocie loin des caméras ?
Oui, alors c'est ce qu'on nous dit depuis plusieurs jours, mais c'est d'une opacité totale et on ne sait vraiment pas quel est l'objectif précis de ces discussions.
En tout cas, dans le feuilleton AstraZeneca, on a pu mesurer la défiance qui s'est installée avec cet épisode italien. On s'en souvient, des carabinieri ont récemment inspecté une usine près de Rome qui met en flacon le vaccin AstraZeneca et ils y ont découvert un stock très important.
Oui, cette inspection, c'était une manière de mettre encore plus la pression sur l'entreprise et de faire un coup médiatique aussi. 29 millions de doses ont été comptées dans les frigos et AstraZeneca a eu beau expliquer qu'elles étaient là en attendant des autorisations. Bien, il y a eu beaucoup de fantasmes sur ces doses. Emmanuel Macron a carrément dit qu'elles avaient été saisies.
Oui, et Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, a assuré que 2 millions de ces doses seraient récupérées par la France.
Alors, c'est pas faux, mais soyons clairs, ce ne sont pas de nouvelles doses, juste celles qui étaient prévues dans le planning normal des livraisons d'AstraZeneca, même révisé à la baisse. La compagnie attendait que l'Agence européenne du médicament valide comme opérationnel, conforme, son usine qui produit de la substance active du vaccin aux Pays-Bas. D'accord. Tant que ça n'était pas le cas, alors le produit pouvait être mis en flacon en Italie, mais pas être livré aux Européens. Mmh. Mais voilà, dans le contexte très difficile de la vaccination en France, par exemple, les politiques avaient besoin de bonnes nouvelles, donc ils ont un peu enjolivé l'histoire.
La vraie bonne nouvelle, ce serait que les labos réussissent à produire plus de vaccins. C'est possible? Ça peut arriver?
La production monte en puissance nettement, même si ça paraît long. Une cinquantaine d'usines tournent ou se préparent à tourner sur le continent. L'objectif, c'est d'être capable de produire 2 à 3 milliards de doses par an en Europe, selon le commissaire Thierry Breton, qui supervise tout ça. Mais en attendant, c'est vrai que c'est dur. Et AstraZeneca, avec son patron en Australie, sa communication désastreuse et ses retards, fait finalement un coupable idéal, parfois un peu trop peut-être, pour les retards de vaccination.
Ouais, le coupable idéal, c'est toujours un peu louche. Et si je vous ai bien écouté, Isabelle, personne n'a aucune preuve qu'AstraZeneca ait caché quelques stocks.
Pas qu'on sache, en tout cas.
Voilà, où est livrée la Grande-Bretagne indûment. Pour repartir d'un bon pied, en tout cas, le vaccin AstraZeneca a discrètement changé de nom fin mars. Il s'appelle désormais le Vaxzevria. Voilà, c'était bien de pouvoir décortiquer un peu ce feuilleton avec vous, Isabelle Horry. Merci beaucoup et à très vite.
À bientôt.
Et c'est au Sénégal qu'on file dans quelques instants pour braquer le projecteur sur la jeunesse, celle qui était dans les rues et en colère il y a un mois. On va les écouter et essayer de comprendre pourquoi.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Au Sénégal, c'est aujourd'hui la fête de l'indépendance de 1960 dans un contexte un peu troublé. Il y a tout juste un mois, éclataient de violentes manifestations suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, sérieux candidat pour l'élection présidentielle de 2024. Il est accusé de viol et a été libéré finalement sous condition. Mais début mars, pendant plusieurs jours, une importante contestation de rue a secoué le pays. Et c'est la jeunesse qui s'est largement mobilisée pour exprimer son ras-le-bol. Ras-le-bol de la précarité, des injustices, du manque de liberté d'expression, des mots accentués par la pandémie mais qui semblent structurels dans le pays. À Dakar, un mois après cette explosion de colère et le retour à la calmie, notre correspondante Margot Chevant s'est allée à la rencontre de cette jeunesse en quête d'un avenir meilleur. Reportage.
Sur le trottoir de la route principale du quartier populaire de Parcelles-Assainie, un minibus abandonné stationne au milieu de stands de marchands ambulants. À bord, une dizaine de jeunes tuent le temps, faute d'avoir trouvé un emploi pour la journée. Parmi eux, Modou Niang, un jeune apprenti dans les transports en commun. Il y a un mois, quand la contestation a éclaté dans ce quartier faisant un mort, Modou a préféré ne pas manifester. Mais il partage la colère de ceux qui ont battu le pavé.
Un jour je travaille, un jour je ne travaille pas. C'est la débrouille au quotidien. Comment s'assurer un avenir comme ça? Une journée de travail me permet de subvenir à mes besoins pour 2 jours à peine. C'est un éternel recommencement. En plus, je dois payer mon loyer, l'eau et l'électricité. C'est trop dur, je suis fatigué. Je ne vois pas comment les choses peuvent s'améliorer dans notre pays.
Cette précarité, ce manque de perspective, s'expriment aussi à l'université Cheikh Diop de Dakar parmi les étudiants. Le mois dernier, le campus a été le théâtre de violents affrontements avec les forces de l'ordre. De ces heures, il ne reste que le nom de l'opposant politique Ousmane Sonko, tagué en noir sur les troncs d'arbres. À 32 ans, Diame Faye a fait partie des manifestants. Dans les logements universitaires, ce doctorant en droit partage une chambre d'à peine 10 mètres carrés avec 4 autres camarades. Tout juste la place pour un sommier, un petit bureau. Et alors que Diame entame sa 10e année d'études, jusqu'ici, il n'a jamais réussi à décrocher, ne serait-ce qu'un stage.
Pour trouver un travail au Sénégal, c'est très difficile. Les gens n'emploient pas les personnes à la place qu'ils veulent. Mais ils cherchent les neveux, les frères, les fils des ministres qui sont là. On les prend malgré qu'ils n'ont pas de formation. On les prend et c'est eux qui prennent la place des gens qui ont reçu une formation pour le faire. Et ça cause des problèmes énormes pour le développement de notre pays. Il y a un très grand ras-le-bol ici aux étudiants. Les étudiants sont fatigués. Ça suffit maintenant. Il faut que cela arrête. Les dirigeants doivent maintenant commencer à nous donner le respect qu'il faut.
Au Sénégal, le taux de chômage est particulièrement élevé auprès des jeunes. 18% chez les moins de 35 ans, rien qu'à Dakar, la capitale. Un ingrédient explosif au cœur du malaise de la jeunesse. Celle-ci n'était pas aussi massivement descendue dans la rue depuis 2011, quand le président Abdoulaye Wade avait voulu changer la constitution pour briguer un troisième mandat. À cette époque, justement, à la pointe de la contestation, était apparu un mouvement citoyen, Y en a marre, formé par des rappeurs et des journalistes. Un collectif qui s'est élargi depuis et qui, le mois dernier, était de nouveau dans les rangs des manifestations.
Bonjour.
Bonjour.
Aliou Sané, le coordonnateur des Y en a marre, me reçoit dans leur QG du quartier Mermoz à Dakar.
Pendant toutes ces années, les Sénégalais ont beaucoup souffert de tout ce qui est attaque à l'espace civique, les attaques liées à la démocratie, tout ce qui est interdiction de marche. On l'a vu que systématiquement, toutes les marches qui étaient initiées par la société civile, par les activistes, les mouvements citoyens, les acteurs politiques étaient pour la plupart réprimés, étaient pour la plupart interdites. Tout ça, en fait, c'était des frustrations accumulées. Et quand ça a pété, pour la plupart, les jeunes qui sont sortis, ils sont même pas de Yann Amar, ils sont même pas des soutiens de Sonko. C'est juste des jeunes qui sont sortis des quartiers. Et en majorité, pour beaucoup, ils n'étaient même pas là en 2011-2012. Beaucoup de ces jeunes ont entre 15, 17, 18.
Depuis, pour calmer cette contestation, le gouvernement a promis d'augmenter de près de 500 millions d'euros les budgets alloués à l'emploi des jeunes, à la formation, à l'entrepreneuriat. Pas sûr que cela suffise. Le mois dernier, il a fallu in fine l'intervention des guides religieux, seuls vrais régulateurs sociaux, pour que la rue cesse de faire entendre sa colère. À Dakar, Margot Chevance, Europe 1.
Voilà, la colère des Sénégalais et en particulier des jeunes. On en parle avec Gilles Yabi qui est en ligne avec nous depuis Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, économiste et fondateur de Wati, un think tank de l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar. On a entendu ces jeunes qui parlent de frustration accumulée, d'absence de perspective, de passe-droit. Le fils du ministre passe toujours avant. Finalement, l'arrestation du député Ousmane Sonko n'était que l'étincelle qui a allumé la mèche. Ça agit comme un révélateur.
Oui, absolument. C'était clair que l'ampleur des manifestations et la violence qui a entouré ces manifestations soulignaient l'existence de frustration plus profonde des jeunes, notamment par rapport à leurs conditions sociales et économiques, et aussi, c'est vrai, par rapport à la perception d'un recul de l'état de droit et des libertés, tout cela s'ajoutant au contexte sanitaire qui a amené des mesures également difficiles comme le couvre-feu.
Oui, vous parlez de recul d'état de droit et effectivement, quand on a vu ces émeutes début mars qui ont fait quand même 10 morts, on a vu des télés être suspendues par les autorités pendant plusieurs jours et ce n'est pas l'image qu'on a du Sénégal plutôt considéré comme depuis très longtemps, depuis toujours comme stable dans sa gouvernance. Et pourtant, vous dites qu'il y a bien un recul de l'état de droit ?
Oui, alors je dis souvent aussi qu'il n'y a pas de modèle en termes de démocratie et d'état de droit. Oui, mais il y a des pays, disons, où il y a plus de consolidation de la démocratie et du respect de l'état de droit que d'autres, mais c'est toujours relatif et on le voit d'ailleurs partout dans le monde. Donc ce n'est jamais acquis non plus. Oui. Et donc on peut avoir des périodes historiques de recul. Et c'est vrai qu'au Sénégal, ces dernières années, il y avait déjà beaucoup plus d'interdictions de manifestations bien avant la crise sanitaire. Et le sentiment aussi, notamment de la justice, qui soit utilisée à des fins politiques.
Elle est fragile, l'indépendance de la justice ?
Oui, je pense que sur ce point, c'est assez clair. C'est pas une question nouvelle, mais c'est vrai que ces dernières années, notamment à l'occasion de la dernière élection présidentielle, où deux candidats importants n'ont pas pu se présenter parce que justement, ils ont eu affaire avec la justice, ça a renforcé le sentiment de l'utilisation de la justice pour régler des comptes politiques et en tout cas pour éliminer des adversaires politiques potentiels. Mais au-delà de cette question, la question de renforcement des institutions et des institutions de contre-pouvoir, évidemment, elle se pose au Sénégal, mais elle se pose à nouveau dans beaucoup de pays de la région.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander, une sorte de panne un peu du processus démocratique. On le voit aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du continent.
Oui, à nouveau, il y a une panne, mais il faut aussi savoir qu'on est dans des trajectoires de construction de l'État, de construction de la nation et de construction de la démocratie. On parle d'États qui sont jeunes dans leurs frontières actuelles et indépendants depuis une soixantaine d'années pour la plupart. Et donc, ça a des conséquences sur l'instabilité aussi des institutions politiques. Donc, on se cherche un peu encore en termes d'institutions politiques à développer et à consolider.
Avec
et
des avancées aussi, et des reculs.
Oui, mais j'insisterai aussi sur le fait qu'on ne peut pas parler seulement de la démocratie sans faire un lien avec les politiques publiques, avec les questions économiques et sociales. Je crois qu'aujourd'hui, il faut construire des démocraties qui produisent du sens pour les populations et qui répondent aussi à leurs aspirations en termes de développement économique et social.
Oui, on a entendu, c'était beaucoup les préoccupations de ces jeunes dans le reportage de Marco Chevance, de trouver du travail, d'avoir des perspectives d'avenir. La population africaine est extrêmement jeune. Cette jeunesse, est-ce qu'elle fait émerger de nouveaux leaders? Est-ce qu'elle fait confiance à de nouveaux leaders qui seraient à l'abri finalement des dérives du système?
Alors, cette jeunesse, elle aspire effectivement à des changements profonds dans la gouvernance et aussi un renouvellement des acteurs dirigeants. Et c'est en cela que Ousmane Sonko au Sénégal a pu apparaître comme une alternative séduisante pour les jeunes. Mais à nouveau, le discours de rupture avec le système, il ne se traduit pas toujours après par la mise en œuvre d'un agenda de réforme réelle. Et c'est pour ça aussi que, au niveau du think tank que j'anime, on insiste beaucoup sur le fait que la démocratie ne doit pas être réduite aux élections et qu'on a beaucoup négligé toutes les autres dimensions qui donnent du sens aux élections et qui permettent d'avoir une démocratie permanente, un nouveau rapport en fait entre les gouvernants et les gouvernés.
Voilà, une construction permanente, la démocratie. Merci beaucoup, Djidi Diaby, pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes politologue, économiste et fondateur donc de ce think tank Wati. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.
Changement de décor dans quelques instants. On va appeler Joseph Chovanec qui revisite les blagues du 1er avril, version autistan.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Dernière minute de vadrouille pour ce dimanche et c'est en autistan que l'on plonge, guidé par l'ami Joseph Chovanec. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Voilà, parmi les petits oiseaux en Belgique, vous partagez avec nous votre regard singulier sur le monde, Joseph. Regard riche de toutes vos qualités de philosophe, autiste Asperger, amoureux des voyages et riche aussi de votre humour. Inspiré aujourd'hui par le 1er avril, bien sûr.
Oui, Sophie, le 1er avril sort de journée mondiale de la blague. Inutile de préciser que c'est l'une des choses les plus difficiles pour un jeune autiste à comprendre, à appliquer. Des années d'apprentissage et de gaffe. Mais ceci étant, on finit par mieux comprendre le monde et on peut mieux voyager.
C'est important de comprendre comment on blague dans un pays pour s'y intégrer.
Oui, tout à fait, Sophie, parce que dans certains pays, les blagues sont franchement directes. Elles peuvent vous secouer fermement. Un dimanche matin, il y a une dizaine d'années, j'étais étudiant à Yakoutsk, en Sibérie. Et soudain, ce fut le branle-bas de combat dans la résidence universitaire. Un commando de faux soldats en uniforme, en fait, d'autres étudiants, munis de fausses mitrailleuses, entraient violemment dans les chambres pour réveiller les gens en sursaut. Les étudiants russes trouvaient ça très drôle. Mais pour ma part, j'ai un peu honte de l'avouer. J'avais tout de suite compris que c'était une blague. Mais j'en garde quand même un mauvais souvenir. Mon principal regret, c'est que je n'ai pas été visé. Les étudiants faux soldats ont évité ma chambre.
Pourquoi ce regret? C'est quand même pas génial comme réveil.
Bah, Sophie, tout simplement, l'un des signes les plus sûrs d'acceptation mutuelle, c'est quand quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous se permet de plaisanter directement, sans filtre, avec vous. Mon meilleur souvenir de mes échanges avec les Américains tient à un petit détail. J'ai appris l'anglais assez laborieusement et pas à l'école, plutôt sur le tas. Pendant longtemps, j'en avais des complexes. Et voilà qu'un jour, alors que je racontais quelque chose à un Américain, j'avais commencé ma phrase par « I proposed » au sens de « j'ai proposé ». Et lui, il m'a interrompu sèchement et il m'a lancé « Congrats, félicitations !» Ça m'a fait beaucoup plaisir, car ça voulait dire qu'il acceptait de blaguer avec moi. Il me reconnaissait comme anglophone.
Alors, il faut que vous nous expliquiez un peu, Joseph, c'est un double sens, en fait.
Mais évidemment, parce que « propose » en anglais veut dire certes proposer, mais surtout demander en mariage. Et depuis lors, je suis très attentif à ces moments-là dans les langues que j'apprends.
D'après votre expérience des nombreux endroits où vous êtes allé, Joseph, j'imagine qu'il y a des pays où les gens ont plus ou moins d'humour.
Oui, et j'aime bien, Sophie, les pays où les gens savent se prendre avec moins de sérieux. Ouais. Et l'un de mes coups de cœur, c'est Taïwan. Les Taïwanais sont sans doute parmi les gens les plus drôles qu'on puisse rencontrer. Ils sourient beaucoup et on tombe très vite sur ce qu'on appelle localement ling xiao hua, ou humour froid. Hein. Malheureusement, mon chinois rudimentaire n'a jamais été bon, mais parfois je comprends quand même. Comme quand le long d'une route sinueuse en bord de mer, les panneaux officiels montre une voiture dans l'eau et l'inscription inutile de freiner si votre voiture sait nager.
Effectivement. Et sinon, Joseph, vous qui vivez en Belgique, ils sont forts en blagues, les Belges.
Oui, Sophie, beaucoup de Belges vous diront que tout le pays est une blague. Hein, et de fait, presque à chaque pas, il y a des petits indices qui mêlent humour de type 1er avril au surréalisme. Évidemment, le surréalisme est belge. Hein. Cela va de mon voisin qui a mis à l'entrée de son jardin, non pas un panneau accès interdit, mais champignons mortel, hein, jusqu'à cette tradition nationale belge qui consiste à ériger des monuments, non pas à je ne sais quel chef de guerre du passé, mais au schtroumpf, au fameux chat, hein, généralement dans des postures amusantes, ou encore le mythique panneau indicateur où une flèche indique toute direction, et une deuxième flèche indique autre direction.
J'adore celle-là, ils sont très forts. Joseph, quand vous le pourrez d'ailleurs, il faudra que vous veniez voir les 20 sculptures géantes du chat de Gueuluc, justement, qui trônent sur les Champs-Élysées. Hein.
Oui, j'espère que ce sera possible bientôt. Hein. Mais en somme, le 1er avril ou un autre jour, pour se faire accepter, il faut suivre le dicton africain. La sagesse est comme les sous-vêtements. Il faut en avoir, mais ne pas la montrer.
Pas mal ce dicton. On peut remplacer sagesse par humour, d'ailleurs. Dans votre dicton, ça marche aussi. Fait. Merci, Joseph. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
Il est temps de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés. N'hésitez pas d'ailleurs à partager le podcast de l'émission que vous trouverez sur europe1.fr. Et bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Sophie.
Vous prenez ma place dans le studio dans quelques minutes. Quel est le programme ?
On va pas tout à fait refermer les carnets du monde, Sophie, puisque je reçois d'abord Adeline Dieudonné, l'auteur belge, qui revient enfin avec son deuxième livre. Et puis nous visiterons la bibliothèque du Guide du Routard. Donc on va vraiment voyager.
Super, la Voix est libre, c'est dans quelques minutes. Très bonne émission. Quant à nous, avec Marc Fréjean et Marion Gauthier qui ont réalisé et préparé les carnets, on vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h et c'est Jean-Sébastien Soldaini qui vous emmènera en vadrouille. D'ici là, portez-vous bien.